Chers frères et sœurs et chers amis, nous continuons la série très très importante concernant la prière. Nous aurons cette fois même cinq courts sujets, cinq thèmes, mais des thèmes très importants. Premièrement, la forme de réponse à la prière. Deuxièmement, la forme de réponse à la prière. Donc, troisièmement, la forme de réponse à la prière, toujours. Donc, nous avons trois formes de réponse à la prière. Quatrièmement, le monde entier est spirituel. Cinquièmement, le secret du pouvoir décuplé. Nous commençons par le premier thème qui est le premier ou la première forme de réponse à la prière. Chers amis, quelle est la vérité littérale de la réponse à la prière? Réussit-elle? La réponse se vérifie obligatoirement dans les témoignages. Il faut donc pardonner les références personnelles. Pour être exact, les histoires exceptionnelles, sensationnelles ou dramatiques ne sont pas d'une très grande utilité. De tels témoignages amènent toujours à se poser des questions. Certains faits ont-ils été supprimés inconsciemment? Quelle a été la véritable amélioration permanente? Jusqu'à quel point était-ce une coïncidence? Or, le but recherché est de prier objectivement, et ceci dans une vie quotidienne ordinaire de chrétien, et d'être simplement honnête en tout. Tout d'abord, il est bien clair qu'il existe deux moyens de solutionner une situation peu satisfaisante. Soit la situation est adaptée à la personne qui l'affronte, soit la personne s'adapte à la situation. Les chrétiens expérimentent le fait que la prière peut accomplir l'un ou l'autre de ces résultats ou en provoquer un troisième. Nous proposons trois formes possibles de réponse à la prière sur ce plan matériel de besoin. Si nous mettons en avant la première, c'est en raison de la difficulté supplémentaire à le croire, surtout si l'on a une foi incertaine, non pas parce qu'elle est plus importante que les autres, mais non. Toutes les trois représentent les moyens que Dieu emploie pour répondre aux appels de ses enfants. Dieu peut donc modifier la situation que nous évoquons dans notre prière. Je répète, Dieu peut modifier la situation que nous évoquons dans notre prière. L'apôtre Pierre, rappelez-vous, il dormait dans le cachot d'une prison, et ceci entre deux soldats, enchaînés même, surveillés par des sentinelles en faction. Excusez-moi. Or, Dieu l'a libéré, selon Actes chapitre 12. Ce chrétien d'alors a trouvé cette situation aussi inouïe que nous la considérons aujourd'hui. Et Pierre sortit et ils suivaient l'ange, mais sans savoir que ce qui arrivait par l'ange, si c'était vraiment vrai et une réalité, car ils pensaient regarder une vision. Actes chapitre 12, verset 15. Alors que l'Église en détresse priait à propos du harcèlement des chrétiens par Saul de Tarse, Dieu a converti Saul. Il l'a converti, il l'a changé. Et la réponse à leur prière était aussi idéale qu'inattendue. Ensuite, les prières de l'apôtre Paul et de Silas, qui étaient emprisonnés à Philippe, ont littéralement secoué la terre jusqu'à même ébranler le sol de la prison. Et les portes se sont ouvertes et les liens se sont détachés des prisonniers. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 25 et 26. Nous sommes donc incapables d'imaginer de nos jours une action aussi concrète de la prière. En effet, les temps ont changé, c'est vrai, et ces exemples sont bien entendu dramatiques, mais c'est ainsi que les chrétiens ont vécu les choses pendant des siècles. L'argent était fourni, les décisions étaient prises et même étaient correctes, les solutions se présentaient, la santé se rétablissait, les obstacles étaient surmontés, s'évanouissant ou constituaient même des opportunités. Les attitudes sont actuellement totalement différentes. Des choses surprenantes, inexplicables et quelquefois très humiliantes se produisent en réprimande pour les timides et ceux qui avancent des excuses. À maintes reprises, les hommes de prière ont ressenti que s'il y a quelque chose à faire, alors il faut le faire, et que s'il faut le faire, alors c'est possible. Nous n'avons pas la prétention d'affirmer que la prière fournira la solution parfaite, idéale, génératrice de bonheur, en dépit de toutes les folies, les péchés et les omissions antérieures. Cela serait absurde et même malhonnête. Il reste cependant que la prière change les choses et même bien des choses. Un pasteur nous raconte le témoignage suivant. Il dit « J'ai plaidé pour être fermement guidé pour savoir si je devais poursuivre certains plans établis depuis longtemps, totalement démunis face aux difficultés. Et puis, j'ai eu l'étonnement de rencontrer dans la rue où je me trouvais par hasard, et sans aucune raison évidente, un homme qui voulait me poser une question. Cet homme m'a effectivement posé la question fondamentale et m'a proposé de payer les frais inhérents à la démarche envisagée si je voulais tenter le coup. Bien que très reconnaissant, j'ai refusé l'offre, mais l'orientation et l'encouragement ont quand même déferlé. Et ayant prié songeusement pendant plusieurs jours pour qu'un chemin puisse s'ouvrir, alors un visiteur s'est annoncé un matin, et ceci au petit déjeuner. Ignorant absolument tout de mes prières et de la sincérité de mon désir, cet homme m'a offert un prêt. Oh, beaucoup plus tard, alors qu'un besoin financier que je présentais dans la prière se faisait vraiment sentir, j'ai reçu par courrier la nouvelle d'un héritage totalement inattendu provenant d'un étranger. L'héritage n'était pas très très important, mais il suffisait totalement. Et une autre fois, une voiture, se frayant un chemin dans les embouteillages, est arrivée à ma hauteur, et voilà qu'une voix que je n'avais pas entendue depuis 3 ou 4 ans, elle m'a proposé spontanément une paire de bottes achetées par erreur. Dans toutes ces expériences très variées et rapidement énumérées, la prière n'était souvent rien d'autre qu'un cri du cœur plein d'anxiété. « Oh Seigneur, toi qui sais absolument tout, dis-moi, que dois-je faire ?» Mais il y a eu des moments différents, des semaines angoissées de prières pour avoir un logement, pour rendre possible une réunion de famille, pour trouver un emploi, ont même abouti à l'offre tout à fait inattendue d'une personne presque inconnue d'acheter carrément une maison et de nous la louer. Alléluia! Et cette solution arrivait en des temps où la Bretagne était absolument surpeuplée. Elle était si rare et si généreuse. Elle provenait avec une telle certitude de Dieu que je suis resté absolument sans voix, incapable de répondre au téléphone de façon intelligible. L'expérience pastorale apporte aussi son lot de surprises, simples ou énormes, dans la prière. La semaine s'annonçait surchargée et je l'envisageais avec un sentiment d'urgence et de panique dans un esprit non préparé à cette éventualité. Les orateurs publics connaissaient ce genre de trac. Et les quelques minutes volées pour faire une prière rapide ont suffi, oh oui, ont suffi à m'éclairer l'esprit et le message, voyez-vous, est arrivé totalement entier, préparé en quelques minutes. C'est ce que nous dit ce pasteur comme témoignage. Voyez-vous, il arrive souvent que nous soyons incités à rendre visite à quelqu'un qui, ouvrant la porte, s'exclame « Oh, voyez-vous, j'ai prié pour que vous veniez. » Et il est arrivé qu'une entrevue particulièrement délicate, très redoutée ou repoussée à une date ultérieure, se déroule avec la plus grande facilité et qu'elle soit couronnée de succès. Alors que le chemin a été préparé par la prière, je dis bien par la prière, et parfois au dernier moment, un imbroglio matrimonial s'est résolu contre toute attente parce que, voyez-vous, Dieu a changé d'une façon ou d'une autre les attitudes des protagonistes du jour au lendemain et d'une façon, on peut dire, miraculeuse. 2 ou 3 personnes avait même prié à ce propos, mais sans en attendre de résultat. Ça nous arrive, c'est un manque de foi, mais le Seigneur et même fidèles par nos manques de foi. Une jeune malade a été amenée à remettre sa propre vie à Dieu dans la prière partagée et dans la soumission. Une jeune convertie, pas encore tout à fait mûre, récemment présentée à Christ, devait se résoudre à laisser son mari être interné pour un traitement psychiatrique. Ça, c'est déjà quelque chose de grave. Et voyez-vous, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et comment ? Son cœur avait débordé d'angoisse, et on la comprend. Autant pour elle que pour son cher mari, en ces temps de cruelles incertitudes. Mais elle a néanmoins fait preuve, carrément, d'une foi particulièrement sereine, intrépide et même effrontée. Au grand étonnement de tous, Dieu a maintenu en elle la fermeté et la paix de cette foi enfantine jusqu'à la totale guérison de son cher mari. Et oui, chers amis, il est très instructif de se remémorer les réponses que Dieu nous a faites dans la vie quotidienne. La plupart des chrétiens pourraient améliorer cette liste. Je sais une chose, que la prière change les choses. D'autres choses s'insinuent dans l'esprit, trop compliquées à expliquer par écrit. Lorsque, par exemple, les réponses sont indirectes et lorsqu'elles sont différentes de notre demande ou lorsqu'elles semblent provenir d'une demande déjà assez ancienne. L'histoire suivante va être susceptible de faire ressortir cette idée. Un naufragé avait travaillé des jours entiers pour construire un abri, façonner des outils rudimentaires, s'approvisionner en aliments et en matériaux combustibles. La solitude, la maladie et l'angoisse l'ont acculé à un désespoir qui était proche de la folie. Il ignorait comment prier. Mais, voyez-vous, il s'est souvenu de quelques fragments de prière de son enfance et il s'en est servi. Il s'est aperçu qu'elle guérissait sa panique et même ses cauchemars. Il a pris la résolution de vouer sa vie à Dieu s'il était sauvé de cette terrible situation. Il priait à tout moment pour prouver sa sincérité profonde avec des mots tout simples. Mais voilà qu'un feu mal éteint a causé la destruction totale de son abri, de ses outils, de son stock, de ses vêtements et de tous les matériaux combustibles. Un énorme feu. On peut bien le dire. Alors une aigreur absolument intense et le comble du désespoir l'ont submergé d'un coup. Se jetant carrément dans le sable, il a donné libre cours à sa colère, à sa révolte et à ses larmes jusqu'à s'effondrer mentalement, totalement épuisé. Or, voyez-vous, l'équipe d'un navire qui passait tout à fait involontairement par hasard, on pourrait le dire, eh bien, cet équipage l'a sauvé, car ils l'ont trouvé ainsi, à demi inconscient, au bord de la folie. Et plus tard, il a simplement demandé d'un air abasourdi, « Mais comment saviez-vous que j'étais ici, isolé totalement, dans cet endroit d'une île perdue ?» Et ses sauveteurs lui ont répondu tout simplement ceci, « Mais à cause de l'énorme feu que vous aviez allumé, bien sûr !» Chers amis, avez-vous bien compris le point extraordinaire de ce grand miracle et l'extraordinaire amour de Dieu? Il m'est aussi arrivé d'expérimenter parfois que Dieu change la situation d'une manière incompréhensible pour nous, d'une manière qui nous est parfois désagréable, mais le fait est que les situations s'arrangent dans le bon sens. Deuxièmement, nous arrivons donc à la deuxième forme de réponse à la prière. Chers amis, nous n'avons étudié que la première des trois façons que Dieu utilise pour exaucer une prière sur le plan matériel et concret de l'expérience. Dans ce cas, c'est Dieu, oui, lui, Dieu, qui change totalement la situation. Donc, notre deuxième façon consiste, pour Dieu, à nous montrer comment modifier la situation. Ainsi, Josué, après qu'il se soit lamenté à propos de la défaite à Haï, a reçu les instructions pour qu'Israël remporte la victoire. « Tu ne pourras pas tenir devant tes ennemis tant que vous n'aurez pas écarté l'anathème du milieu de vous. Celui qui sera désigné à propos de l'anathème sera brûlé par le feu, lui et tout ce qui est à lui, car il a transgressé l'alliance de l'Éternel. » Josué, chapitre 7, versets 13 et 15. De la même façon, Moïse, notre cher Moïse, ayant présenté à Dieu le dilemme d'Israël, hésitant entre les Égyptiens d'un côté et la mer de l'autre, a reçu en guise de réponse « Et maintenant, va !» Exode chapitre 3, verset 10. Nous implorons, chers amis, le Seigneur. Nous disons, Seigneur, fais ceci, fais cela pour nous, pour moi. Et la réponse bien vaillante vient alors, mais fais-le toi-même et Eureka, nous en sommes devenus même capables de faire ce que nous avons pensé impossible de réaliser. Lors de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul, il s'est heurté à des portes closes, à des mouvements contraires à l'Esprit Saint. Ils traversèrent une certaine région et le Saint-Esprit les ayant empêchés d'annoncer la parole de Dieu en Asie, ils tentaient d'entrer en Bithynie, mais l'Esprit Saint de Jésus-Christ ne le leur permet pas. Actes chapitre 16, versets 6 et 7. Donc, ces plans ont été contrecarrés, on peut bien le dire, jusqu'à ce qu'ils aient la vision d'un Macédonien lui lançant un appel. Passe en Macédoine et viens à notre secours. Actes chapitre 16, verset 9. À partir de cette prière, la situation s'est retournée de situation frustrante. Elle s'est transformée en opportunité glorieuse. L'apôtre Paul s'est immédiatement mis en devoir d'agir. 2 ans plus tard, ayant été arrêté, alors qu'il semblait à la merci de factionnaires sans scrupules, et même d'une secte de juifs absolument fanatiques, l'apôtre Paul a fait appel au jugement de César. Et en quelques mots, il a dit « J'en appelle à César ». Actes des Apôtres 25, verset 11. Et il a donc désarmé Rome de son esprit de rivalité mesquine, de son bigotisme racial et de son inimitié suprême envers les chrétiens en s'en remettant totalement à la Cour suprême de l'Empire. Nul doute que dans cette situation, il a vraiment été inspiré dans la prière. Voyez-vous, il arrive très souvent que la réponse de Dieu parvienne sous cette forme qui consiste à nous indiquer comment modifier la situation. Un souvenir personnel peut, une fois encore, illustrer ce propos. Une vieille machine à écrire délabrée a constitué la réponse indirecte à un besoin. Dieu me soufflait « Si tu veux de l'aide, écris pour demander de l'aide, gagne de l'aide. » Et une autre fois, alors que j'avais un problème financier, le téléphone a sonné et une voix totalement étrangère m'a offert la possibilité bien rémunérée de faire un travail à mi-temps. Ce travail était temporaire, mais il m'a demandé quand même un hiver de travail ardu. Mais voyez-vous, le Seigneur avait entendu ma prière et il avait montré comment le besoin peut être comblé. Ce point est donc d'une grande importance. Voyez-vous, lorsque l'apôtre Pierre a demandé à Jésus-Christ la monnaie pour acquitter les taxes, le maître l'a orienté pour qu'il trouve de l'argent, que croyez-vous ? Quelque chose d'incroyable, mais un vrai miracle. Je répète, parce que c'est extraordinaire. Jésus-Christ l'a orienté pour qu'il trouve de l'argent dans la gueule, dans la bouche d'un poisson. Tenant compte de son style d'expression souvent ambigu, et du métier qu'exerçait l'apôtre Pierre, il n'est pas étonnant que certains ne voient pas du tout en ceci un miracle, mais quand même, chers amis, une recommandation ferme et pertinente d'aller pour gagner ce que l'on demande et qu'on le reçoit de cette façon-là, c'est quand même, à mon avis, un miracle. Il est certain que la prière n'a jamais remplacé l'effort, l'initiative et l'entreprise. La réponse de Dieu, elle consiste souvent à nous ouvrir les yeux sur la nécessité qu'il y avait à prier. Troisièmement, nous arrivons à la troisième forme de réponse à la prière. Oui, il existe une troisième forme de réponse à la prière où Dieu laisse la situation telle qu'elle et nous change intérieurement. Le problème se trouve alors résolu parce que votre propre attitude, elle s'est modifiée. Il s'agit également d'un ajustement des choses pour arriver au but désiré. Il semble donc qu'il en ait été ainsi lors de l'emprisonnement de l'apôtre Paul. L'Église philippienne était très inquiète à son sujet, et on le comprend. L'apôtre lui-même se sentait bâillonné, enchaîné et totalement inutile. Mais il a obtenu la grâce d'utiliser la situation, de témoigner devant ses gardes, de faire connaître la raison pour laquelle il était renvoyé en jugement parmi les membres de la garde prétorienne. Et c'est ainsi qu'il pouvait écrire « Ce qui m'arrive a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. » Philippiens chapitre 1, verset 12. L'usage du mot « plutôt » est très lourd de sens. Il suggère qu'il a eu une opinion différente de ce qui lui est arrivé, ou il rageait alors carrément contre la situation et contre son indolence. Les circonstances n'ont pas été changé, mais l'apôtre Paul se trouve toujours en prison. Mais voyez-vous, son attitude à lui est devenue plus positive face à la situation et il s'est rattrapé. L'expérience de la maladie de l'apôtre Paul constitue un exemple similaire. L'écharde en la chair, selon 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, elle demeure. Mais la foi élevée dans la prière y trouve un nouveau sens. Le problème est résolu, bien que la situation demeure totalement inchangée. Les tensions diminuent et la personne s'y trouve ajustée. Bunyan a également fait de son silence un silence forcé et son emprisonnement. Il en a fait un chef-d'œuvre d'enseignement évangélique et d'appel par son fameux livre « The Pilgrim Progress ». Et dans quel sens pouvait-on dire que l'apôtre Paul était emprisonné? Samuel Rutherford a découvert que la cellule de prison en compagnie de Dieu est un lieu de joie radieuse. Beaucoup de personnes dans ce cas ont connu le trouble, mais pas la désolation. Elles ont connu des moments d'abattement, mais n'ont jamais été détruites. Chaque fois, le fait que la personne se soit adaptée aux circonstances, cela a éradiqué le problème de la foi ou du service. Est-ce à dire que la manière dont Dieu exauce nos prières importe peu pour le nouvel arrangement concret et objectif de notre situation, qu'il modifie les circonstances ou nous indique comment procéder, ou encore nous change intérieurement même le résultat, totalement. Notre cri a été entendu, alléluia, et notre besoin est donc satisfait. Les problèmes provoqués par la vie, la folie ou le péché sont maintenant résolus lorsque, chers amis, nous prions. Le quatrième thème, c'est le monde entier est vraiment spirituel. Ah oui, la foi sur laquelle est basée cette gamme de prières a déjà été suggérée, tout comme la foi en Dieu, créateur et dirigeant de toutes choses, Dieu qui reste tout puissant et libre dans le monde qu'il a créé. Les Écritures chrétiennes de l'ancien temps déclarent que Dieu a fait le monde. Les livres centraux de la Bible affirment en termes poétiques magnifiques et dans une prose émouvante que la terre et son abondance appartiennent au Seigneur, que Dieu domine souverainement l'histoire et la nature. L'Évangile annonce que Dieu est entré dans l'histoire, qu'il est venu sur la terre dans la chair. La vie et ses conditions, la nature et ses lois et liaisons, les êtres et leurs décisions et agissements, toutes ces choses sont aux mains de Dieu. Celui qui dispose absolument tout, c'est Dieu. Ce monde, comme Jésus-Christ nous le rappelle continuellement, est celui de notre Père céleste, Yahvé l'Éternel. Notre utilisation des mots objectifs ou concrets se réfère aux choses pour lesquelles nous prions. Cela pose une question complexe et d'envergure. Les rochers se modifient sans cesse. Les montagnes sont venues et passeront. L'intégrité de l'ordre colossal des choses, y compris la matière et l'esprit, constitue un kaléidoscope d'événements expérimentés progressant rapidement et changeant à toute vitesse. La physique moderne nous enseigne que le matérialisme est totalement démodé. Des formes spirituelles, invisibles, jouent secrètement, sans interruption, sur le courant et le dessein de la nature et de l'histoire. Finalement, le monde entier est spirituel. Au sein des éléments constituant le monde, le Créateur a destiné destiner la prière à être la force opérante. Et c'est une partie de l'ordre fondamental des choses au travers duquel les plans divins se réalisent par l'aspiration humaine et l'obéissance et la foi. Interdire la prière du monde matériel, objectif, reviendrait à infirmer l'expérience et introduirait une contradiction sans issue dans l'unité fondamentale de la pensée religieuse. La prière provenant de l'esprit modifie les choses qui appartiennent au monde physique, parce que Dieu est vraiment le maître absolu de toutes choses. Et dans tous les domaines, notre suffisance vient de Dieu. Et la prière est vraiment le secret de cette suffisance. Et cinquièmement, nous avons le secret du pouvoir décuplé. Il est dit dans Romains chapitre 8, verset 26, « De même aussi, l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même sollicite souverainement par des gémissements ineffables. » Romains chapitre 8, verset 26. Je m'excuse de prendre parfois les indications bibliques, soit dans une version allemande ou anglaise. Nous allons, chers amis, maintenant aborder l'un des plus grands secrets de la prière. Comme un émetteur radio peut amplifier la voix humaine jusqu'à lui permettre d'atteindre le monde entier si nécessaire, le pouvoir de l'Esprit Saint peut amplifier nos faibles efforts humains jusqu'à les rendre assez puissants pour déplacer des montagnes. Dans la Genèse, il est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux et qu'il a mis en ordre le chaos initial. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était un chaos, et il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Genèse chapitre 1, versets 1 et 2. Lorsque Dieu achève son œuvre, les eaux se mouvaient dans les limites fixées, les collines et les montagnes se trouvaient en des lieux appropriés, les fleuves coulaient le long des vallées jusqu'aux mers, ainsi qu'en avait exactement décidé le Créateur. Pourtant, très peu de temps s'est écoulé avant que le mal pénètre dans la magnifique création de Dieu. Il fallait désormais que Dieu restaure son œuvre totalement abîmée. Visant cet objectif, il a ordonné que la prière soit le moyen d'introduire son Esprit Saint dans l'œuvre de restauration. Les Saintes Écritures indiquent clairement que l'Esprit de Dieu a un rôle vital dans la satisfaction de la prière. C'est l'Esprit qui fait vivre, car la chair ne sert de rien. Je crois que ça se trouve dans Saint Jean, chapitre 6, verset 63. La manière dont nous laissons se mouvoir l'Esprit de Dieu dans nos prières est extrêmement importante. Dans la vie de Christ, le rapport entre sa prière et le mouvement de l'Esprit de Dieu est particulièrement manifeste. Lors de son baptême, sa première action publique, alors qu'il sortait de l'eau en priant, le ciel s'ouvrit et l'Esprit Saint descendit sur lui, selon Saint Luc chapitre 3, versets 21 et 22. Jésus-Christ a ensuite été mené par l'Esprit Saint dans le désert, où il a passé 40 jours sans manger et boire, se confiant simplement en son Père céleste. Et c'est là qu'il a affronté le diable et il est resté à ses tentations, donc face à face, mais il a résisté. Je répète, il a résisté à toutes les tentations grâce au glaive de l'Esprit Saint. Lisez et notez Saint Luc chapitre 4. Revenant du désert, Jésus-Christ a choisi 12 disciples. L'une de ses premières leçons a été de leur apprendre à prier. Son plus grand enseignement a été la révélation majeure selon laquelle le Saint-Esprit, réservé auparavant à une poignée d'élus seulement, se répandrait dorénavant sur toute chair. Toute personne qui en fait la demande au Père céleste peut à présent recevoir le Saint-Esprit. Et moi, est-il dit, et moi je vous dis, demandez et on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Si donc, vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Saint Luc chapitre 11, versets 9 à 10 et le verset 13. Chers amis, quelle est la lutte chrétienne? La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Voilà pourquoi prenez la panoplie de Dieu afin qu'au jour mauvais, vous puissiez résister, vous puissiez mettre tout en œuvre et tenir le coup. Debout donc, ayant au rein la vérité pour ceinture, pour vêtement la cuirasse de la justice, et pour chaussure aux pieds la promptitude à annoncer l'évangile de la paix. Avec tout cela, prenez le bouclier de la foi, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Recevez aussi le casque du salut et le glaive de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu. Par toutes sortes de prières et de demandes, priez à tout moment en esprit, et pour cela soyez vigilants avec une entière assiduité, et demandez pour tous les saints. Éphésiens chapitre 6, verset 12 jusqu'au verset 18. Voyez-vous, dans ce passage, saint Paul évoque le combat, notre combat de chrétien. Il proclame que le chrétien n'a pas à lutter seulement contre la chair et le sang, pas seulement contre la chair et le sang, mais surtout contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits pervers qui sont dans les régions célestes. Et après avoir énuméré les armes de Dieu indispensables pour pouvoir résister à l'ennemi, saint Paul indique comment le chrétien peut mener ce combat en priant à tout moment, en esprit. Oui, de nombreux chrétiens n'ont pas appris à prier en esprit. Elles sont conscientes d'avoir besoin d'un pouvoir additionnel. Elles avouent qu'elles éprouvent souvent des difficultés à prier, qu'elles sont incapables de surmonter. Quelle est donc la réponse à leurs problèmes ? La seule façon de résoudre ces difficultés est d'apprendre à prier en esprit. Cela ne veut pas dire que celle ou celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit est perdu. Ça serait une théologie de Satan. Non. La personne qui est sauvée, qui a compris qu'elle était perdue et qu'elle a accepté la main tendue du Sauveur, qu'elle a compris qu'il a versé son sang précieux à la croix pour elle et pour lui, en acceptant Jésus-Christ, comme, rappelez-vous, il y en avait un qui était crucifié en même temps que Jésus-Christ, mais celui-là a compris quelque chose. Il a compris qu'il était perdu. Or, croyez-vous, chers amis, que sur la croix, où il a tout compris tout à coup, par la grâce qui lui a été offerte, il ait eu le temps d'être baptisé par immersion et qu'il ait eu le temps d'être enseigné pour prier par l'Esprit Saint? Non. Et malgré cela, est-ce que Jésus-Christ lui a dit « Ah, tu sais, malheureusement, il n'y a aucun espoir pour toi. Tu es foutu. » Je m'excuse de ce mot parce que j'ai dit un coup dans un de mes CD que le diable et tous les démons ont été foutus dehors du ciel. Et ça a été très mal reçu. On n'a retenu que ce mot-là de toute l'étude entière. Alors, je dois faire très attention de ne pas dire un mot qui pourrait être mal interprété et qui détruirait carrément tout le message. Ce serait quand même dommage. Donc, c'était juste pour vous faire comprendre que si vous êtes sauvé, que vous avez accepté Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes et faites partie de tous ceux dans la diaspora, dans l'univers, on peut dire, qui sont les enfants du Seigneur. Nous faisons donc partie de ceux qui sont sauvés en Christ, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on va parler en langue et se rouler par terre. Là, j'ai dit de nouveau une exagération. Qu'on sera un jour en enfer. Pas du tout. Heureusement. Relisez le Nouveau Testament. Moi, vous savez, je vous conseille de lire simplement, si vous n'avez pas le temps, l'Évangile de Saint Jean. Lisez-le. Moi, j'ai dû le lire 3 fois pour le comprendre totalement. Mais je n'étais pas, évidemment, un érudit avec 4 ans d'école primaire. J'ai dû le lire 3 fois. Mais pour vous qui avez quand même fait des écoles 3 fois plus en année, il vous suffira de le lire 1 fois et vous aurez tout compris. Mais revenons quand même à notre texte. Pour prier, chers amis, avec succès dans un monde totalement perdu, nous avons évidemment besoin du pouvoir de l'Esprit Saint. Et pour lutter contre les principautés et les esprits pervers qui sont dans les régions célestes, je l'ai déjà dit, la présence de l'Esprit Saint est forcément indispensable. Et pour servir les malades, qui sont malades pas seulement physiquement, de corps, mais aussi de l'âme, de l'esprit, nous avons besoin de la compassion de l'Esprit Saint. Et ceci afin d'exercer les dons de l'Esprit, nous avons donc besoin du pouvoir vivifiant de l'Esprit Saint. Nous échouerons immanquablement si nous tentons d'agir avec nos faibles moyens sans avoir recours à l'Esprit Saint. Nous devons donc apprendre le secret suivant. Bien que Dieu écoute les prières du plus faible, gloire à Dieu, nous devons toutefois apprendre à prier en esprit afin de prier avec force et de mener l'offensive spirituelle. Et c'est ainsi que saint Paul souligne la grande importance du Saint-Esprit dans notre vie de prière. De même aussi, l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit Saint lui-même sollicite souverainement par des gémissements ineffables. Romains chapitre 8, verset 26. Donc, nous avons besoin de l'Esprit Saint. Ceci pour nous aider dans nos prières. Il arrive souvent que nous ne sachions pas ce qu'il convient de prier. Nous ignorons les tentations à venir. Mais l'Esprit de Dieu connaît les obstacles ultérieurs et il priera effectivement contre le danger qui nous guette si nous lui en donnons l'opportunité. Nous savons donc que d'autres ont besoin de nos prières, mais l'Esprit Saint seul connaît tous les besoins cruciaux que chacun affronte à un moment donné. Nous avons donc besoin de sagesse pour prendre des décisions, surtout si nous devons les prendre sans délai. L'Esprit Saint de Dieu sait absolument tout. Il prévoit tout. Et si nous lui en donnons l'occasion, il nous prépare, croyez-moi, oh oui, à toute cette décision. Car son omniscience et son omnipotence permettent à toute chose d'aboutir absolument favorablement. Il n'est donc pas étonnant que les deux grandes vérités de Romains, chapitre 8, verset 26, et chapitre 8 toujours, mais verset 28, soient révélées au même moment, car elles sont consécutives. De même aussi, l'Esprit Saint vient en aide à notre faiblesse, car nous ne savons pas toujours prier comme il faut, mais l'Esprit Saint lui-même sollicite souverainement, par des gémissements ineffables, selon Romains chapitre 8, verset 26. Nous savons d'ailleurs que Dieu fait tout concourir au bien de ceux qui l'aiment, ceux qui sont appelés conformément à son dessein. Romains chapitre 8, verset 28, que j'ai déjà cité. Si l'Esprit de Dieu prie en notre nom, il concourra certainement au bien de toutes choses. Nous arrivons maintenant à la question majeure. Comment prier par l'Esprit Saint ? Comment l'Esprit de Dieu peut-il prier à travers nous ? La réponse est simple. Tant que nous prions dans notre propre langue, nous faisons nous-mêmes la prière, évidemment. Mais lorsque nous prions dans une langue inconnue, c'est l'Esprit Saint de Dieu qui prie pour nous. Saint Paul explique cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, versets 14 et 15. Il dit « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Quoi donc alors ? Je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence, je dirai un hymne avec l'esprit, mais je le dirai aussi avec l'intelligence. » On peut prier avec l'esprit, on peut prier avec l'intelligence également. Saint Paul priait avec l'intelligence, mais aussi par l'esprit, c'est-à-dire dans la langue inconnue. Bien que publiquement, il parle peu par l'esprit, il priait beaucoup par l'esprit dans l'intimité, la glossolalie. Il pouvait donc dire « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » 1 Corinthiens chapitre 14, verset 18. Il connaissait donc l'importance de parler par l'Esprit Saint. Mais je répète, ce n'est pas la glossolalie qui sauve et qui permet d'aller au ciel, comme certains l'enseignent. Si nous ne prions pas par l'Esprit Saint, il se peut que nous négligeons peut-être des choses essentielles. Peut-être nous heurterons-nous à une opposition imprévue, va savoir. Peut-être devrons-nous affronter des problèmes inattendus. Mais l'Esprit de Dieu est capable de venir à bout de toutes circonstances, de tout problème survenant aux croyants. Et si notre foi est trop faible, il nous suffit de laisser l'Esprit prier pour nous afin de nous faire entrer dans l'orbite de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu prie, le surnaturel est actionné et le miracle que nous n'espérions pas va arriver. Alléluia. Donc, certaines personnes ont prié pendant des années pour quelque chose en particulier. Leur foi semblait ne jamais devoir être exaucé. Et puis, voilà que l'Esprit de Dieu est subitement arrivé sur eux et le miracle s'est produit. Et c'est ainsi que s'accomplit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon Esprit qu'il accomplira mon œuvre, dit le Seigneur des armées, dans Zacharie, chapitre 4, verset 6. Donc, l'intercession de l'Esprit-Saint dans nos prières est telle qu'il semble que Dieu s'identifie complètement à la personne qui prie. De telles épreuves arrivent à tous ceux qui apprennent à se confier en le Seigneur. La Bible dit à celui qui est épuisé, il donne de la vigueur. Du faible, il décuple les forces. Mais ceux qui attendent le Seigneur renouvellent leur vigueur. Il leur pousse des ailes comme aux aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils marchent sans s'épuiser. Isaïe, chapitre 40, versets 29 et 31. Bien que je dors souvent, que 3 heures au maximum par nuit, des fois moins, je ne dis pas que c'est bien. Je n'ai jamais dit ça. Hein? Mais bon, j'ai toujours été un peu comme ça dans le sens... C'est, on pourrait dire, presque une maladie, peut-être, va savoir. C'est pas très encourageant, je ne le conseille à personne, pas du tout. Mais je dois quand même dire une chose. À 84 ans, faire ce que je fais et être renouvelé, je le sens, hein, que parfois... Mes forces sont décuplées, renouvelées, comme l'aigle, on peut presque le dire. Et donc, évidemment, bien que je ne comprends rien à tout cela, je sais que le Seigneur, il permet que je continue de faire ce que je fais d'une façon surnaturelle. Je lui dois tout, mais tout, absolument tout, vous avez compris. Donc ceux qui se confient en le Seigneur renouvellent quoi ? Renouvellent leur force. Et nombreux sont ceux qui ont l'habitude de se précipiter dans la présence du Seigneur sans prendre le temps de lui soumettre leurs âmes et leurs esprits. Ils sont tellement débordants d'activités naturelles qu'ils ne donnent jamais à l'Esprit-Saint l'occasion d'entrer dans leur prière. Chers amis, bien sûr que c'est pas drôle d'être sur le lit en train de se retourner d'un sens dans l'autre toute la nuit et de ruminer. Alors, vous savez, l'Esprit Saint nous donne quand même des directives intéressantes, utiles. Il me dit « Lève-toi ». C'est 2 heures du matin, tant pis, hein, et prépare un nouveau sujet, étudie bien ton sujet pour que tu puisses le parler correctement, bien que tu aies un Suisse toto, réfugié politique zurichois. Mais je vais t'aider. Et bon, je m'en inquiète pas. À la place de ruminer, je fais ça et je sens que je suis renouvelé. Je me recouche un moment, peut-être une heure et demie, puis ça reva. Gloire à Dieu. Je ne comprends pas tout, mais je suis reconnaissant. Donc, encore une fois, ceux qui se confient en le Seigneur renouvellent leurs forces. Et nombreux sont vraiment ceux qui ont l'habitude de se précipiter dans la présence du Seigneur, hélas, sans prendre le temps de lui soumettre tous leurs problèmes. Hein? Ils sont donc tellement débordants d'activités qu'ils ne donnent jamais à l'Esprit-Saint l'occasion d'entrer dans leur prière. Alors David savait, oh oui, il savait se confier en Dieu. Et comment? C'est un exemple. Dans le psaume 37, il déclare « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. » Oui, silence devant l'Éternel et espère en lui. Car les méchants seront supprimés, mais ceux qui attendent l'Éternel, ceux-là posséderont le pays. Psaume 37, versets 5, 7 et 9. Non seulement les montagnes, mais le monde entier seront donnés à ceux qui espèrent et se confient en le Seigneur. David se confiait en Dieu et il gagnait contre toute attente. Il a donc appris à consulter le Seigneur avec toute action. Chers amis, nous allons terminer peut-être une prophétie d'encouragement, on va savoir.
Bien-aimé, dit le Seigneur, il y a parmi vous des personnes lasses et fatiguées de cette vie superficielle qu'ils ont vécue jusqu'à maintenant. Ils se rendent compte que ce que ce monde offre est éphémère et ne donne aucune satisfaction réelle. Oui, il y a plusieurs parmi vous qui ne sont pas heureux dans le fond de leur cœur. Bien que vous ne voulez pas le reconnaître, vous n'êtes pas heureux parce que vous savez très bien que vous ne vivez pas comme vous le devriez. Et ce qui est le plus difficile, c'est que vous ne voulez pas mourir à vous-même. Vous essayez de trouver une paix dans de multiples choses et même dans diverses philosophies que ce monde essaye de vous offrir. Mais sachez que en dehors de moi, dit le Seigneur, il n'existe pas la paix pour votre âme. Mais voici, je vous le dis, il y a le salut et la paix même dans ce monde, si vous le désirez de tout votre cœur. Du reste, je vous l'ai dit dans ma parole, venez à moi, vous qui avez des lourds fardeaux, car je désire vous donner le repos. Oui, mes enfants, je vous invite ce soir à devenir mes disciples si vous désirez devenir vraiment heureux et avoir la paix de votre âme. Cessez de chercher le bonheur dans les choses vaines que ce monde vous offre. Abandonnez votre orgueil, renoncez à votre propre volonté, à votre ego, à votre vie de péché et à vouloir suivre vos propres voies et désirs. Venez à moi, dit le Seigneur, tel qu'un pécheur et avec humilité, et déchargez-vous entièrement sur moi. Et alors, la véritable paix et la joie dont je vous ai promis dans ma parole deviendront vôtres. Oui, il y a des choses glorieuses dans le royaume céleste que ceux qui ont placé leur confiance en moi peuvent déjà en réaliser les bienfaits durant leur vie actuelle. Oui, il y a des longueurs, largeurs et profondeurs de paix et de consolation que vous ne pouvez pas imaginer. Sages et heureux sont ceux qui peuvent comprendre et accepter ce merveilleux salut. Sachez que les jours que vit cette humanité sont comptés. Et malheur à ceux qui ont placé et continuent de placer tous leurs trésors, leurs espérances dans ce monde. Pour ceux qui ont compris que ce monde peut rien leur offrir de durable, Acceptez mon conseil que vous ne regretterez jamais. Oui, cherchez des richesses durables, un trésor que personne ne pourra vous ravir, une cité dont les fondations sont inébranlables et éternelles. Donnez votre cœur tout entier et acceptez le salut que je désire vous offrir. Je vous donnerai une couronne incorruptible que personne ne pourra vous ravir. Éloignez-vous du péché qui vous mord l'âme tel qu'un serpent et éloignez-vous de ce monde qui ne va jamais vous satisfaire. Venez à moi tel qu'un pécheur qui reconnaît et regrette ses péchés, et je vais vous recevoir, vous pardonner et vous donner le Saint-Esprit qui va vous renouveler et vous remplir de la véritable paix. Sachez que tant que vous ne venez pas à moi pour recevoir et accepter ce don gratuit qui est le salut, un abîme continuera de vous séparer pour toujours de la vie éternelle. C'est pour cela, je vous l'ai dit dans ma parole, celui qui croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu, et qui se confie entièrement en lui, n'est pas jugé, car celui qui se confie en lui et l'accepte dans son cœur ne vient jamais en jugement. Il n'est ni rejeté, ni condamné. Mais par contre, celui qui ne croit pas et ne désire pas ou même refuse ce merveilleux salut, est hélas déjà jugé et de ce fait est déjà condamné. Or, vous savez ce que dit l'Écriture. Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. Or, ce moment favorable, c'est maintenant, et le jour du salut, c'est aujourd'hui. Mais demain, cela sera peut-être trop tard, nous dit le Seigneur.